Bienvenue dans À tes amours, le podcast qui propose une autre manière d'aborder les relations. Nous sommes Adèle,
Alexia
et Sacha.
Et nous allons vous parler notamment d'émotions, de communication, de polyamour et d'autres formes de non-monogamie. Ce podcast s'adresse à toute personne s'interrogeant sur les relations. Dans nos sociétés, les comportements et rôles sociaux attendus sont différents en fonction de si on est un homme ou une femme. Ces attentes différenciées en fonction de notre sexe, c'est ce qu'on appelle le genre. De manière caricaturale, on nous apprend à travers une éducation genrée qu'un homme doit être fort et intelligent, et qu'une femme doit être douce et belle. Même si cela évolue et heureusement, le genre impacte encore notre construction, notre perception de nous-mêmes et des autres. Et ça impacte notre manière de nouer des liens. Personnellement, j'ai tendance à valoriser la spécificité et l'unicité de mes relations. Chaque personne est unique, chacune de mes relations l'est donc aussi. Et pourtant, là aussi, je détecte certains aspects genrés. Les hommes de mon entourage ont du mal à se confier et à parler de leurs émotions, tandis que les femmes autour de moi ont tendance à prendre soin de leur entourage et à se sentir égoïstes si elles se soucient moins des autres. Quand j'invite un homme ou une femme chez moi, les femmes me proposent de l'aide en cuisine et m'aident à débarrasser, quand les hommes regardent plutôt ma porte qui grince pour remettre de la graisse et éviter ainsi qu'elle couine. C'est cliché, non? Ça m'interpelle en tout cas. Aujourd'hui, j'aimerais donc parler dans quoi notre genre influence nos relations, amicales comme amoureuses. Quelles constructions genrées existent encore dans les relations entre hommes et femmes? Et est-ce qu'il faut lutter contre? Dans ce cas, comment? Avant de commencer cet épisode, j'ai souhaité un petit avertissement. Car parler des genres tels qu'ils sont construits par la société, c'est très binaire. Les rôles genrés s'appuient généralement sur deux cases, homme ou femme. Ces cases excluent plein de personnes qui ne se retrouvent dans aucune, ou qui ne se retrouvent pas dans la catégorie dans laquelle elles ont été assignées à la naissance sur la base de leur sexe biologique. Dans cet épisode, on va utiliser beaucoup ces deux rôles prescrits d'homme et de femme. Notre but n'est pas du tout d'être excluant, mais plutôt de parler de comment on a été socialisé depuis notre enfance à travers ces deux étiquettes, homme et femme, et des biais que cela induit dans nos relations. Ces constructions nous impactent toutes, personnes cisgenres, agenres et transgenres. On espère ne pas être trop maladroit. Alors, Sacha et Alexia, est-ce que vous avez détecté dans vos relations des asymétries de genre?
Par quoi on commence? Sacha, tu veux commencer?
Peut-être on peut commencer par les choses les plus évidentes. J'ai l'impression que ce qui se retrouve dans la plupart des relations, notamment dès qu'ils commencent à avoir un petit peu de cohabitation, c'est que les femmes vont faire beaucoup plus de travail domestique et s'occuper à manger, ne serait-ce que faire la cuisine, mais aussi s'assurer qu'il y a suffisamment d'ingrédients nécessaires dans le frigo pour faire la cuisine et faire plus le ménage, ne serait-ce que passer l'aspirateur très régulièrement et aussi plus occasionnellement faire les autres tâches que les hommes ne sont même pas au courant qu'il faille faire, comme les vitres ou nettoyer les toilettes.
C'est vrai qu'on se demande un petit peu niveau charge domestique, on a des impressions que ça évolue parfois autour de nous, mais moi je suis d'accord avec toi Sacha, je le détecte encore, notamment quand je suis dans des groupes même, que ce soit d'amis ou dans ma famille, où je vois les femmes prendre quand même plus leur part en termes de charges ménagères, sauf si c'est vraiment très très discuté dans les groupes pour faire attention justement à ce que ce soit pas le cas.
Ouais.
Et je m'étais interrogée un petit peu aux chiffres qu'il y a notamment sur les études statistiques en termes de population. Et effectivement, il y a encore dans les dernières études une différence très très notable en termes de nombre d'heures passées aux charges domestiques. Et du coup, dans une étude de 2012 actualisée en 2022 de l'INSEE, les hommes déclaraient qu'ils passaient 11 heures à faire le ménage quand ils étaient célibataires versus 16 heures pour les femmes. Quand ils sont en couple, les hommes ont une diminution de leurs heures de tâches ménagères puisqu'ils passent à 9 heures versus 23 heures pour les femmes, où ça augmente d'une manière conséquente.
Avant de continuer sur les chiffres, on peut déjà commenter cette première partie qui est quand même... On voit deux choses là-dedans, qui est d'une part que les femmes font plus le ménage de manière générale. Si on les laisse toutes seules, elles font faire plus le ménage que les hommes. Donc ça, y a un certain nombre de raisons qui peuvent l'expliquer. Mais ce qui est encore plus grave et choquant, c'est que une fois qu'il y a cohabitation, on pourrait se dire qu'on trouve un équilibre entre les deux. Mais c'est que les hommes se mettent à plus rien foutre et c'est les femmes qui doivent rattraper les heures qui sont pas faites par l'homme, quoi.
Ouais, et ça s'aggrave entre guillemets encore plus puisque finalement dans un couple avec au moins un enfant.
Donc avec beaucoup plus de travail à faire.
Vous n'êtes pas prêts pour la suite.
Les hommes passent 10 heures, donc c'est une heure de moins que quand ils sont célibataires, versus 28 heures pour les femmes, ce qui représente donc 12 heures de plus que quand elles sont célibataires. Donc voilà, en termes de répartition, ça c'est entre guillemets la dernière étude statistique en France sur le sujet, donc c'est pas... Ça date pas des années 50, quoi. Donc on voit qu'il y a encore des grosses différences, effectivement, sur la répartition des tâches ménagères.
Moi, ça m'étonne vraiment beaucoup quand... Enfin, je devrais peut-être pas être étonnée, mais ça m'arrive d'être invitée par des couples d'amis. Et vraiment, ça m'arrive de notre âge, et c'est la meuf qui fait tout. Genre, je trouve ça ouf. Et voilà, témoignage.
Bien sûr, là, du coup, ce que je dis, c'est des études souvent où il y a des biais dans le sens où les études sont majoritairement réalisées dans des couples hétérosexuels. Moi, je sais pas du tout comment ça se passe dans d'autres types de relations, vu que c'est moins documenté. Mais bon, c'est quand même illustratif sur la question qui nous intéresse aujourd'hui versus le genre, quoi. Ok, donc à part sur l'inégalité de la répartition des tâches domestiques. Est-ce que vous voyez d'autres points ?
Moi j'ai un point, moi. J'ai un très grand point. Moi, j'aimerais bien parler d'un papier, donc qui est une brochure, qui... Je vois ce que tu fais, Sacha. Sacha, il est en train d'anticiper sur ce que je vais dire en faisant des micro-réponses. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Du coup, le papier qui m'intéresse parle du travail des hommes et des femmes dans la conversation. Et c'est un papier qui dit... Qu'en fait, on dit que les femmes sont bavardes, mais en fait, c'est les hommes qui parlent le plus. Il y a les hommes qui font beaucoup plus d'interruptions que les hommes qui font beaucoup plus de chevauchements, c'est-à-dire qui vont pas lâcher l'affaire si en fait on se retrouve à discuter à deux. Chacun est en train de dire son truc, ça arrive dans une discussion quand on n'a pas compris que la personne n'avait pas fini son propos ou quoi, et du coup il y a du chevauchement, et les hommes ne lâchent pas l'affaire, et du coup c'est les femmes qui se taisent. Qu'il y a, et j'arrive à ce que fait Sacha, beaucoup plus de réponses minimales par les femmes. Donc les réponses minimales, c'est quoi ? C'est montrer, c'est des tout petits mots-clés ou des « mm-hmm » pour montrer qu'on est en train d'écouter la personne qui est en train de parler. Et si vous écoutez n'importe quel autre épisode de « À tes amours », vous verrez que Sacha ne fait jamais « mm-hmm » alors qu'Adèle le fait tout le temps.
C'est d'ailleurs, petit aparté, c'est comme ça je fais du chevauchement et de l'interruption.
Mais non, tu fais, c'est un dialogue. Vas-y.
C'est ce qu'on appelle parfois l'écoute active, dans le sens où on souligne effectivement qu'on est en train d'écouter la personne qui est en face de nous et on fait des relances aussi en reformulant ou en précisant les propos de la personne en posant des questions.
Ouais, absolument. Et j'allais y venir, les femmes posent, donc selon une étude qui est dans ce papier, 2,5 fois plus de questions que les hommes. Donc des questions de relance qui montrent qu'on s'intéresse au sujet, qu'on comprend ou qu'on essaie de comprendre. Donc je trouve ça fou, quoi. Et ensuite, quand il y a interruption, si une femme est interrompue, elle est là genre, bon bah en fait, je comprends que ça sert à rien que je me batte et je vais pas ramener mon propos, quoi. Alors qu'un mec qui est interrompu, il est « Mais attendez, tout à l'heure, j'étais en train de dire » et il reprend son propos, quoi. Ce sont des études qui sont vieilles, hein, qui datent des années 80. Donc, on pourrait se dire que les choses ont évolué d'ici là. J'ai pas de chiffres récents, mais de mon observation empirique, je continue à voir ces problèmes dans la communication genrée. Je remarque que moi-même, en fait, j'ai tellement pas de réponses minimales, parfois par des mecs, que je me vois... leur en demander, c'est-à-dire que je ponctue mes phrases de « tu comprends ?» ou « tu vois ce que je veux dire ?» juste parce que sinon j'avais l'impression de pas être écoutée en fait. Genre je peux avoir un gars qui est là, il est censé m'écouter, on est dans un dialogue, il va regarder dans le vide, et moi je suis là genre « je sais pas si je suis un fantôme en fait
». Ouais, voire moi dans certaines de mes relations, les mecs ils commentent en parlant de totalement autre chose, genre de ce qu'ils voient dans la rue et tout, et je suis là genre « mais
ouais, tu m'écoutes ?» Ouais, c'est ça, je trouve ça fou. C'est une interruption sur un truc qui n'a rien à voir. Et moi, ça m'arrive de regarder ça. Je me fais interrompre sur un truc qui n'a rien à voir. Et je regarde si la personne revient à mon sujet. Et un mec, ça revient pas à mon sujet. Alors qu'une meuf... Alors, donc, bon, je parle beaucoup en superlatif. Je suis pas censée faire ça. Et donc, quand je dis toujours et jamais, c'est souvent ou pas souvent, en réalité, pour traduire. Mais oui, une femme qui m'interrompt, elle peut très bien dire « Ah, oh, regarde là-bas !» Et elle revient à moi en disant « Pardon, je t'interrompais, tu parlais de ça. » Et elle reprend mon sujet, quoi. Et il y a un dernier truc sur le travail dans la conversation, qui est le langage corporel de l'attention. Et pareil, là, j'ai l'impression vraiment de noter un fort décalage entre si je discute avec une meuf ou avec un mec. Et une meuf, elle va être tournée vers moi, les épaules tournées vers moi, le regard vers moi. Et les mecs, beaucoup plus rarement, ils vont plutôt avoir... tendance à avoir leur corps dirigé vers autre chose, y compris quand je parle, quoi. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur le travail dans la conversation. Et j'invite tout le monde à se rapporter à cette brochure qu'on met dans les notes. Mais j'ai fini de t'accabler, Sacha.
Et ce qui est intéressant là, c'est que non seulement c'est un problème effectivement qui est plus gênant dans la société... Et aujourd'hui, on commence à voir des initiatives, par exemple, dans les réunions où des gens vont être plus attentifs à ce que les femmes se fassent moins couper la parole, etc. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui, naturellement, va arriver. Ouais. Et par naturellement, on veut dire que les hommes ont été...
Sociabilisés.
Ouais, sociabilisés à couper la parole des femmes, en fait, malgré eux. Donc ça, c'est un problème déjà sociétal. Mais plus précisément, là, pour notre sujet, c'est que ça pose des problèmes concrets dans une relation où... Eh bien, ces problèmes-là, ils arrivent dans un couple hétéro, notamment. Ça va arriver que bah, les conversations vont être difficiles parce que c'est souvent la femme qui va devoir faire l'effort de lancer des communications, qui va faire l'effort tout au long de la discussion de s'assurer qu'elle est bien écoutée, que si jamais la conversation dévie, et parfois d'ailleurs le mec, il a la flemme de communiquer, donc du coup, ces petites interruptions, ça va l'arranger. Et s'il revient pas d'ailleurs à la conversation, c'est peut-être aussi qu'il a la flemme que cette conversation continue. Et pourtant, dans une relation, souvent, les gens vont considérer que une relation romantique, elle est chouette parce que on a des discussions intéressantes. C'est souvent un critère qui est utilisé par les gens. Et donc, si ce critère, qui est un critère très important dans une relation, repose uniquement sur le travail d'une des deux personnes, bah, on voit qu'il y a quand même un problème.
Ouais.
Ouais, bah d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été étudié même assez récemment par une chercheuse qui s'appelle Carol Gilligan, qui est américaine et qui a donc fait des études sur justement ces paroles et l'aspect de soins consacrés à l'écoute en fonction du genre. Et c'est assez fou ce qu'elle souligne dans cette étude, c'est donc que ça vient vraiment de l'éducation et que ça se joue dès l'enfance à partir de 4 ans chez les garçons et plus tardivement chez les femmes qui intègrent autour de l'adolescence que leur voix a moins de valeur que celle des hommes. Et je trouve ça assez fou ces études. Donc évidemment, elle souligne que ça impacte la manière dont on relationne et plein d'autres aspects de la vie, et notamment que le soin qu'on porte aux autres est impacté, donc l'aspect gestion émotionnelle presque.
Ouais. Et il y a quelque chose du coup que j'ai l'impression de remarquer, là aussi c'est dans mes observations empiriques, c'est que pour le coup, des mecs qui ont été élevés avec au moins 2 sœurs, attention, vont avoir une plus grande capacité d'écoute, de care, de gestion du langage non-verbal, des micro-réponses et des choses comme ça, des questions de relance. Donc voilà, je sais pas s'il y a des papiers sur le sujet, mais... Ah oui, au passage, Adèle, elle a des... Enfin, Adèle, toi, t'as des références sociologiques assez précises. Moi, je parle plus de trucs empiriques, potentiellement, je dis un peu n'importe quoi. Si jamais il y a des sociologues qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous envoyer des références ou à nous reprendre sur ce qu'on dit, parce que ça nous intéresse beaucoup.
Après, là, on est aussi pas mal en train, effectivement, de parler juste de ce qu'on voit autour de nous. On s'appuie un petit peu sur des données, mais là, on n'est pas en train de faire un travail de recherche, on est en train de visibiliser un petit peu ce qu'on peut voir et ce qui est visible par tout le monde, mais ce dont tout le monde ne fait pas forcément attention.
Oui, et puis effectivement, c'est par rapport à des choses qui nous touchent. Moi, j'avoue que ça me stupéfait parfois de constater que je me dis, allez, on a évolué et maintenant on n'est plus au même stade d'inégalité que dans les années 50. Et en fait, parfois, sur certaines choses, je tombe un peu dénue quand je vois certains des comportements genrés autour de moi. Et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment le genre? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est encore autre chose? Et je trouvais ça intéressant de partager ces réflexions-là.
Mais c'est un petit peu un leurre de se dire qu'on n'est pas au même point que les années 50, parce que c'est vrai qu'on n'est pas au même point, mais le chemin parcouru est finalement, dans un certain nombre de domaines, très court. On a parcouru très peu de chemin dans la pratique, et bah, on peut le voir notamment avec ces histoires de parentalité, les soi-disant nouveaux pères, etc., et les pères aujourd'hui qui se considèrent beaucoup plus actifs et proches de leurs enfants. Alors c'est probablement vrai sur un certain nombre de points, mais on peut quand même voir, notamment avec les petits chiffres que tu as cités tout à l'heure, Adèle, qu'un homme qui devient père, il ne va pas passer tellement plus de temps de sa semaine à s'occuper de ses enfants. Mm-hmm. Alors peut-être qu'il y a 50 ans, il passait 0 heure et maintenant, il en passe, je ne sais plus combien c'est, il en passe 4. Et peut-être on passe de 0 à 4 en 50 ans, et c'est bien, mais on peut considérer que 4 heures par semaine à s'occuper de ses enfants, ce n'est peut-être pas suffisant. Un autre point qui est lié à la communication, c'est de quoi on parle. Et moi, j'ai quand même vraiment l'impression que, notamment là, s'il s'agit de parler tout simplement de la relation, eh bien, c'est un sujet que les femmes vont être facilement intéressées à discuter, alors que les hommes vont souvent être mal à l'aise et avoir la flemme de parler de ça. Et ça, c'est quelque chose que je vois vraiment quand je discute autour de moi avec des gens qui, notamment, qui s'ouvrent à des relations polyamoureuses, qui sont en ouverture de couple ou qui démarrent, c'est que souvent, eh bien, je me retrouve face à discuter avec une femme qui va me dire, mais en fait, mon mec, il a vraiment pas envie de discuter et c'est très compliqué d'arriver à avoir avec lui une discussion sérieuse sur le sujet parce que à chaque fois, il va être mal à l'aise, il va vouloir arrêter. Et ça se voit de manière très concrète et pratique sur le sujet du radar. Donc je vous invite, si vous n'avez pas encore entendu parler du radar, à écouter notre épisode sur le sujet. Et sur le radar, je vois beaucoup de femmes qui me disent « J'aimerais beaucoup faire un radar avec mon compagnon, mais non, mon compagnon n'a pas envie. » Et l'inverse, je l'entends beaucoup, beaucoup moins.
Ouais, c'est fou.
En pratique, d'ailleurs, moi, c'est pour cette raison que j'ai arrêté de faire des radars. Alors, il faut faire attention parce que y a aussi... d'autres raisons qui peuvent expliquer ça. Donc là, on part à travers du prisme du genre, mais on peut aussi être conduit à faire des interprétations là où ça peut être d'autres sujets. Par exemple, moi, je relationne avec des personnes qui sont neuroatypiques et qui, du coup, ont beaucoup de mal à parler des émotions d'une manière générale parce que c'est abstrait et ça fait pas sens pour ces personnes avec qui je relationne. Et du coup, y a des sujets qui sont plus difficiles à évoquer que d'autres. Et... dans le radar, du coup, il y a des choses qui n'avaient pas de sens et on pourrait mettre ça sur le compte du fait que en face de moi, c'était un partenaire masculin ou quelqu'un de neuroatypique. C'est difficile parfois de savoir, en fait.
Mm-hmm. Après, de toute façon, on en discutera un petit peu plus tout à l'heure, mais dans tout ce qui est question de genre, ce qui est important, c'est que tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est des généralités. Mm-hmm. Et évidemment qu'il existe des couples hétéros où c'est la femme qui fout le bordel partout dans la maison et qui fait jamais à manger... Et l'homme qui passe son temps à tout bien ranger dans les tiroirs et qui fait à cuisiner 3 heures par jour. Mm-hmm. Ça existe, c'est certain. Et on n'est pas en train de parler individuellement des gens. Quand Alexia t'a dit tout à l'heure « Ah, j'arrête de t'attaquer, Sacha », je le prenais pas personnellement pour moi. c'est des questions qui sont générales. Et évidemment qu'il y a toujours des exceptions. Et d'ailleurs, le petit danger dans tout ça, c'est de voir de la généralité dans de l'individualité. C'est-à-dire de dire à quelqu'un « Ah, tu ne veux pas parler d'émotions parce que t'es un mec, c'est terrible, alors qu'en fait, cette personne spécifique-là, en fait, elle a d'autres raisons et qu'il faut pas les nier, et que le fait d'être un mec, ça n'aide probablement pas, mais il faut faire attention à ça.
Ouais, sur la question des émotions, moi, il y a un micro-truc qui me choque toujours, c'est à quel point j'ai vu offrir des journaux intimes à des femmes, ou des petites filles, et pas du tout à des garçons. En mode, les garçons, ils ont pas d'émotions à écrire dans leur journal, en fait. Et tout le travail d'introspection, du coup, moi, j'ai l'impression que je le fais depuis que je suis toute petite, parce que j'écris « Cher journal, aujourd'hui, Thomas m'a parlé dans la cour de récréation, et je me suis sentie comme ci et comme ça, et tout. » Et voilà, moi, j'ai hâte d'avoir des petits garçons autour de moi pour leur offrir des journaux intimes.
J'avoue, je vais faire ça pour mes neveux, ils sont pas prêts. Ils savent pas encore écrire.
Ils font des dessins, voilà, comment ils se sentent aujourd'hui.
Toujours sur la communication, bah, tu l'as dit, mais peut-être d'une manière différente, donc je voulais le réexpliciter. J'ai l'impression autour de moi que dans la manière de s'exprimer, les mecs vont être souvent plus affirmatifs et que les femmes vont avoir tendance à comment dire, laisser une porte ouverte au fait qu'on remette en question ce qu'elles ont à dire.
Ouais, moi j'exprime ça en disant les mecs parlent avec beaucoup de prétendue objectivité, là où les femmes vont se mettre dans un positionnement très subjectif à base de « je pense, j'ai l'impression que, de ce que j'ai compris, je crois que ». Et les mecs, c'est « non, c'est comme si, comme ça ». C'est ça que tu voulais dire ?
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on a une remarque sur la dynamique de notre podcast et je pense que ça ressortait un petit peu sur le fait que dans nos expressions, Sacha est peut-être plus affirmatif parfois et Alexia et moi, on dit « on pense que, peut-être que, etc. Mmh. » Alors voilà, moi je le remarque aussi dans d'autres interactions et ça me paraissait un biais genré aussi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Yes, bah moi j'ai
Toi, tu penses que c'est vrai, Alexia ?
Ouais, j'allais dire, j'ai l'impression de... Bon, voilà, une excellente illustration. En même temps, Sacha a bien joué le jeu. Mais oui, et moi, en fait, c'est un truc que je... Enfin, ça s'inscrit dans des choses que je t'ai, entre guillemets, reproché, Sacha, durant une période. Et là aussi, on a du mal parfois à savoir à quel point c'est parce que t'as une éducation de mec ou c'est parce que t'as une forme de neuroatypie ou des choses comme ça, quoi. À un moment, j'expliquais absolument tout par le prisme du genre quand j'ai découvert et j'ai dit « Ah, ça c'est parce que t'es un mec, ça c'est parce que t'es un mec et moi je suis une femme et tout !» En disant ça de façon, en parlant de l'éducation genrée, pas tant du genre qu'on s'attribue, mais ouais.
Ok, on a fait déjà un bon petit panel. Est-ce que vous en avez une dernière ?
Oui, moi j'ai un petit truc pour dire aussi quelque chose à propos des femmes, qui est donc... En tant que femme, on arrive à parler de nos émotions et on arrive à expliciter les choses en premier degré. On arrive aussi à voir le langage non-verbal là où les hommes ont un peu plus de mal à... Enfin, ou en tout cas, n'ont pas la même compréhension du langage non-verbal que des personnes sociabilisées femmes, j'ai l'impression. Mais en fait, je trouve que entre femmes, ça peut nous jouer des tours parce que j'ai l'impression qu'on peut tomber dans des travers d'hypervigilance où on va, en tout cas moi ça m'arrive, je vais vraiment faire attention à tout ce qu'une femme en face de moi va faire, comment elle va regarder, comment elle va réagir à mes réponses, à quel moment et tout. Et je vais éventuellement avoir peur que cette femme ne me dise pas quelque chose ou que je doive comprendre quelque chose qu'elle m'a pas dit explicitement. Et du coup il y a toute une forme d'hypervigilance qui peut vraiment nous nuire, où on peut avoir du mal à rester entre guillemets au premier degré et sur l'explicite, et on peut aller un peu trop sur des interprétations, soit de gestes, soit de tonalités, et voilà. Et ça, Adèle, ça nous a, notamment toi et moi, ça nous a porté préjudice parfois, où c'est complètement débile parce qu'on veut vraiment prendre soin l'une de l'autre, et il y a des moments où on n'arrivait quand même pas à communiquer parce que on faisait trop attention à notre langage non-verbal et on avait peur de certaines choses, et ça a provoqué de lourdes incompréhensions, quoi.
Oui, carrément. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon sur les asymétries de genre, je voulais vous demander, à votre avis, est-ce que c'est un problème ? Et si oui, en quoi ?
Bah, on a vu, rien qu'en en discutant, qu'il y avait des composantes qui étaient extrêmement problématiques, puisque c'est une relation qu'on a envie d'être symétrique, où on n'a pas envie que quelqu'un ait l'ascendant sur l'autre, et au final... pour ce qui est de s'occuper du foyer et d'avoir des discussions intéressantes qui sont des composantes extrêmement considérées comme extrêmement importantes par la plupart des gens dans un couple, eh bien c'est une seule des deux personnes qui va faire le gros du travail et l'autre qui va uniquement se reposer sur ses privilèges pour ne pas faire grand-chose.
Je veux bien monopoliser la parole juste un petit temps pour faire un point sur les privilèges. En fait, la question qu'on se pose avec les privilèges, c'est à quel point on a la vie facile. Et est-ce que le monde nous aide ou est-ce qu'au contraire, il nous empêche de faire ce qu'on voudrait ? Les privilèges concernent plein d'aspects de notre vie. Ça peut être avoir de l'argent ou pas, avoir une famille sécurisante ou maltraitante, être en bonne santé ou se battre contre une ou plusieurs maladies, être dans les standards de beauté ou pas du tout. Donc ça peut vraiment toucher différents aspects. En général, une personne est privilégiée sur certains aspects, mais pas sur d'autres. L'intérêt de réfléchir au privilège, c'est pas de dénoncer quelqu'un en disant « Ah oui, toi t'as la vie facile et donc tu n'as aucun mérite sur tes prétendus exploits et aussi t'es un connard d'être aussi chanceux ». Bon, on n'a pas besoin de tomber dans cet extrême. En fait, l'intérêt de réfléchir au privilège, c'est de prendre conscience des injustices qu'on subit et que les autres subissent et essayer de rendre le monde un peu plus équitable. Donc, juste pour reprendre le sujet de l'épisode qui est le genre, sur cet aspect dans notre société, les hommes cisgenres sont privilégiés par rapport à tous les autres genres. Ça veut pas dire que la vie d'un homme choisi au hasard sera forcément plus facile que la vie d'une femme prise au hasard. Par exemple, il peut y avoir un homme racisé, précaire, qui peut avoir une vie bien plus compliquée qu'une femme blanche et riche. Mais si on imagine, toujours dans notre société, un homme et une femme qui ont des vies similaires, alors l'homme aura globalement des facilités de vie par rapport à la femme. Et c'est de ça qu'on parle dans notre discussion aujourd'hui. Maintenant, ces privilèges de genre viennent entre autres de l'éducation, et je parle de l'éducation au sens large, c'est-à-dire non seulement comment les adultes t'ont volontairement appris des choses, mais aussi tout ce que la société t'a appris seulement par l'exemple, et continue de te montrer. Si on te dit « tu es une femme comme ta maman » et que tu vois que c'est toujours ta maman qui fait le ménage, alors tu vas intégrer loin au fond de ta tête que c'est toi qui es censé faire le ménage. Et si on te dit « t'es un garçon comme ton papa » et que tu ne vois pas ton père faire le ménage, alors tu vas pas vraiment te sentir concerné par l'entretien de la propreté domestique. C'est comme ça que le cerveau humain fonctionne, il fonctionne en intégrant ce qu'on voit autour de nous et en reproduisant ses schémas, pour le meilleur ou pour le pire. Donc il se trouve que dans notre organisation de société, des gens ont considéré qu'il y avait deux sexes biologiques différents et qu'on naissait soit avec un pénis, soit avec une vulve. Entre parenthèses, ces gens-là ont ignoré qu'il existait aussi plein de personnes intersexes. Mais au fur et à mesure, nos ancêtres ont créé une culture qui a attribué un ensemble de caractéristiques à chacun de ces deux genres. Selon cette culture des deux genres, il n'y a pas si longtemps, si tu naissais avec un pénis, tu étais genre homme et tu devais porter des pantalons, avoir les cheveux courts, ne pas pleurer, montrer que tu es fort et intelligent et parler fort pour te faire entendre. Si tu naissais avec une vulve, tu étais genre femme et tu devais porter des robes, avoir les cheveux longs, être gentil en toutes circonstances et porter un joli maquillage mais en restant discrète. Alors, déjà, ces ensembles d'attributs, ils sont absurdes. Pourquoi un mec porterait pas de robe? Pourquoi une meuf devrait passer autant de temps à se maquiller? Sauf que non seulement c'est absurde, mais en plus c'est injuste. À force de faire taire les femmes, on croit qu'elles n'ont rien à dire, voire on croit qu'elles sont bêtes et on ne les écoute plus. Et quand elles parlent, on considère que c'est pas normal. Et ce sont pas des choses qu'on choisit de croire ou de faire volontairement. C'est juste une évolution progressive de notre culture, de nos façons de faire, de nos croyances, de nos comportements, qu'on reproduit sans même y penser. Et cette évolution a donné beaucoup de pouvoir au groupe des hommes, aux dépens du groupe des femmes. C'est ça qu'on appelle le patriarcat. J'ai fini ma parenthèse.
Donc, du coup, si je comprends bien, tu soulignes deux choses qui sont un peu différentes pour moi. C'est l'aspect des privilèges d'une manière générale et d'autre part, le fait qu'il y a différentes valorisations pour différentes tâches qui sont plutôt attribuées à certains genres en particulier. Et ça, ce deuxième truc, c'est le patriarcat.
Pour moi, le patriarcat, du coup, c'est le privilège appliqué au genre. Et donc, il s'accompagne de, justement, ces choses qui ont été attribuées, quoi.
Ouais, d'accord.
Le patriarcat, c'est les deux.
C'est quoi? C'est les deux quoi?
C'est à la fois les privilèges qu'ont les hommes et à la fois le fait que, indépendamment... Enfin, ça reste un privilège, mais que les tâches qui sont associées à ce que font les hommes, genre faire du bricolage, c'est plus valorisé que faire la cuisine.
Oui, voilà, en fait, c'était à cet exemple-là que je pensais, notamment quand on en parlait, c'était l'exemple de mon intro.
Donc la question, c'est, est-ce que ces différences-là, c'est un problème? La réponse, a priori, c'est oui.
Ou est-ce qu'on accepte qu'il y ait toute une partie de la population qui domine l'autre sous prétexte qu'il est né avec un pénis?
Non, mais la question est quand même un petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que si on s'intéresse uniquement à l'échelle d'un couple.
Un couple hétéro, du coup.
Oui.
Ok.
Enfin, un couple où il y a une personne qui a été socialisée comme un garçon et l'autre qui a été socialisée comme une petite fille.
Ouais.
Enfin, c'est plus complexe que ça, mais bref, ce genre de choses. La question, c'est toutes ces injustices qui existent dans la société. Donc, elles vont se répercuter un peu dans le couple. Mais par exemple, voilà, prenons un cas assez bateau. Nous sommes dans un couple hétéro avec l'homme qui s'occupe de tâches. Il répare les trucs dans la maison. Mmh. Et la femme, elle fait à manger.
Oui, est-ce que ça, en soi, c'est problématique ? C'est ça que tu veux dire ?
C'est
et
ça.
En soi, non.
Ou est-ce qu'il faudrait que on dise « Ah non, c'est pas bien, ne faites pas ça. Allez, la femme, tu passes maintenant faire le bricolage et le mec, tu t'occupes de faire la cuisine. » Alors que potentiellement, les deux sont très contents. Ils aiment bien les tâches qu'ils font et ils détestent faire l'autre.
Non, je pense qu'il n'est pas question de remplacer les injonctions par d'autres injonctions. Il est question de faire attention à qui se sent bien comment et de trouver quelque chose équitable en ayant en tête ces biais qu'on a. Et il y a autre chose du coup que j'aurais pu dire dans la première partie, mais qui est à quel point une femme se sent légitime de faire quelque chose, par exemple. Est-ce qu'elle a confiance en elle pour réparer quelque chose ? Et ça, je trouve ça ouf aussi à quel point... l'autre jour, on était avec mon frère et il a un nouveau truc pour faire de la musique qui est un produit... qui est une sorte de console, quoi. Et il m'a demandé si je voulais l'utiliser. J'ai regardé la console avec des boutons partout. J'ai dit, c'est mort, en fait. Je n'y comprends rien. Je vais jamais rien y comprendre. Et lui, il connaît pas plus que moi, mais il a pris le truc et il s'est lancé en mode, OK, c'est parti. Et tout. Et il galère, en fait. Mais il a confiance en lui pour le faire. Et je trouve ça fou qu'on ait ces trucs-là. Et pour moi, il y a des façons d'essayer de corriger ça, en fait. Il y a des façons pour les femmes d'essayer de plus croire en elles, mais pour leur entourage, d'être encourageant par rapport à ça, en fait, et de rappeler que qu'on est capable aussi, quoi.
Ouais, par exemple, pas prendre des mains le marteau dès que on va aller
absolument,
accrocher
ouais.
Un tableau, on dit « Attends, laisse, je sais faire, je vais faire », mais dire « OK, laisser la personne un peu en autonomie, et si elle a besoin, la laisser venir poser des questions, en mode « Ah, tu peux montrer comment tu fais », ça permet de rétablir un petit peu un équilibre avec une dynamique. Sachant que là, du coup, cette dynamique, elle est volontaire. Et ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a certaines personnes, je sais pas forcément très bien le formuler, mais en fait, qui vont se dire, par exemple, pour le travail émotionnel, moi, j'ai pas envie d'analyser mes émotions parce que c'est ma personnalité. J'ai entendu beaucoup de mecs me répondre ce genre de choses. Et là, je trouve que c'est problématique, parce que le but, c'est pas de forcer la personne en face à faire un travail qu'elle a pas envie de faire du tout. Mais d'un autre côté, si ça crée une asymétrie très grande qui est pesante dans la relation, là, ça vaut peut-être quand même le coup de l'adresser.
Yes, ça, c'est un truc au cas par cas, quoi. Enfin...
Et du coup, pour parler concrètement des problèmes que ça peut poser, si je reprends du coup cet exemple un peu caricatural et simpliste de l'homme qui fait le bricolage et la femme qui fait la cuisine, qu'est-ce que je peux voir, moi, comme problème dans cette situation ? Bon, déjà, il y a un problème en termes de temps passé. C'est probablement plus long de faire la cuisine quotidiennement que de faire le bricolage quotidiennement, mais bon, passons de ce truc-là, disons que ça se compense avec d'autres choses et que le temps est équitable. Quels sont les problèmes ? Le problème, c'est, on en a parlé, de la valorisation de la société, c'est-à-dire que quand on invite des gens, par exemple, à la maison, eh bien, les gens vont dire « Oh là là, quel beau meuble, il a bien été réparé, il a bien été construit, parce que c'est le mec qui a construit le meuble, je ne sais pas. » C'est des choses qui sont visibles, alors que le fait que la cuisine, elle a été faite pendant les 10 dernières années, ça reste pas visible. Alors, ça reste visible éventuellement s'ils sont invités à dîner ce jour-là, mais c'est quand même, c'est quelque chose de plus éphémère qui se fait dans l'ombre, quoi. Pareil, passer l'aspirateur, ça se voit pas.
Et ça, la cuisine, c'est un truc qui change un peu, qui est devenu quand même assez valorisé. Et justement, les hommes se sont plus facilement appropriés. Et quand on voit tous les chefs cuistots, les personnes qui sont mises en valeur, c'est des mecs qui font la cuisine. Alors que pour ce qui est des tâches hyper ingrates, genre laver les toilettes, t'inquiète que là, il n'y a pas de chef cuistot des toilettes.
Oui, mais les chefs cuistots, ils font de l'exceptionnel. C'est pas eux qui font à manger tous les jours. S'il y avait la compétition de qui lave le mieux les toilettes, ça serait probablement des mecs qu'on verrait.
J'attends de voir.
Terrifiant.
Ce que je veux dire, derrière la cuisine, il y a plus une réalisation que le ménage qui est le truc par défaut, en fait. Tu vas pas trop tellement remarquer « Oh, comme ce sol est exempt de toute poussière et miettes. »
Ouais, carrément.
Mais c'est ce que tu dis, c'est la valorisation des tâches. Comment on valorise les tâches et comment on les attribue et comment les hommes s'emparent de tâches qui sont valorisées, quoi.
Un autre problème que je peux voir éventuellement là-dedans, mais bon, ça c'est peut-être un petit peu trop tangent, mais c'est l'idée, mais ça c'est valable dans les deux cas, c'est l'idée du manque d'indépendance. C'est-à-dire que si les gens se spécialisent dans certaines tâches qui sont nécessaires pour le quotidien, eh bien, lorsqu'il y a séparation, par exemple, eh bien, les gens sont coincés. Et du coup, les femmes ne sont plus capables de faire quoi que ce soit de manuel en termes de bricolage parce qu'on leur a toujours dit que c'était pas leur truc. Ou de même, les hommes qui se séparent ne savent plus se faire à manger. Quoi. Et du coup, voilà, dans cette situation, on peut peut-être trouver encore d'autres problèmes. Mais voilà, la question quand même que je me pose, et du coup, là, c'est peut-être de faire un petit peu l'avocat du diable, c'est de se dire, est-ce qu'en vrai... c'est si grave. Est-ce que dans une relation, ou du coup une relation hétéro, naturellement on va se retrouver, comme on l'a vu avec les chiffres, avec la femme qui fait plus de travail ménager, qui travaille un peu plus, qui fait des tâches qui sont moins valorisées, c'est pas équitable, mais du coup les gens vont peut-être se poser la question, d'accord c'est pas très équitable, mais c'est la vie, est-ce que ça veut dire que ça va vraiment être nocif pour la relation, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir déployer beaucoup beaucoup d'énergie pour aller à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris sociétalement, et à quel point est-ce que, du coup, ce qu'on dénonce là, aujourd'hui, qui est une réalité, et qui est injuste, ça c'est, on peut difficilement le nier, à quel point est-ce que c'est quelque chose qu'il faut combattre de toutes ses forces, et quitte à ce que d'ailleurs ça mette en péril le couple, parce qu'en fait, il faut secouer les mecs et leur dire, bah maintenant, passe plus l'aspirateur, etc. Est-ce que ce travail, il vaut 3 heures d'aspirateur de plus par semaine.
Là, dans ce que tu dis, Sacha, je note vraiment que tu parles de la relation et tu t'intéresses à est-ce que c'est grave pour la relation. Tu parles plutôt de ça. Et moi, je suis en fait pour la relation à la rigueur, mais surtout les premières victimes, c'est les femmes en fait. et du coup, ouais, ça c'est injuste pour les femmes et c'est pas grave qu'éventuellement dans une relation hétéro, il y a un couple qui se sente bien sur une telle répartition des tâches, ok. Mais le problème est que c'est systémique et qu'on se fait avoir. Et donc oui, il faut lutter contre ça.
Après, moi je trouve que ça se joue d'autant plus finalement dans des relations polyamoureuses si on est amené dans chacune de nos relations, par exemple, à devoir porter le travail émotionnel. J'en parle parce que moi c'est ce qui me coûte le plus aujourd'hui dans les différences liées au genre que j'ai l'impression de porter dans mes relations. C'est vrai d'ailleurs également dans mes amitiés, c'est-à-dire que j'ai pas attendu d'être en polyamour pour le ressentir, ça peut s'appliquer à énormément d'autres types de liens. Mais moi j'avoue que ça m'a tellement pesé que ça m'a même amené à me poser une question sur est-ce que j'avais encore envie d'avoir dans mon entourage des mecs et est-ce que j'avais envie de nouer contact avec des nouvelles personnes si c'était des mecs en me disant bah en fait j'ai pas envie de me retrouver à nouveau dans ce rôle d'infirmière où je vais simplifier l'analyse et l'introspection pour la personne en face, je vais lui prémâcher les choses, je vais essayer de l'accompagner sur tous ces sujets-là. C'est extrêmement fatigant et en retour, bah parfois j'ai pas de personne justement qui va faire ce même accompagnement pour moi à des moments où j'en ai besoin et bah ça du coup ça me pèse. Donc en fait, c'est pas que dans une seule relation, c'est aussi l'aspect de récurrence qui va jouer et je trouve que si on est toujours dans le même rôle et que ce rôle on l'a pas choisi et que ce rôle il nous pèse, c'est là où c'est un problème et il faut lutter contre, y compris si même pour le lien spécifique c'est pas forcément ça fait pas une si grosse différence. Mais c'est vrai que ça pose question et ça moi j'aurais envie de dire il faut en discuter avec les différentes personnes concernées parce qu'il y a peut-être pas une bonne réponse à ça.
Et du coup, je mentionne au passage que c'est une critique qui est faite par certaines féministes au mode de vie polyamoureux, qui est ok, en fait, c'est un nouveau système où les femmes se font encore plus savoir que dans le couple fermé, le couple exclusif, parce que elles ont plus à entre guillemets servir à un mec, elles ont à servir plusieurs mecs qui sont pas engagés de leur côté auprès d'elles entre guillemets. Donc c'est une critique qu'on peut entendre et je pense qu'il peut être vrai pour pas mal de personnes.
Je l'ai entendu, mais j'ai aussi entendu des femmes dire l'inverse, qui est de dire « Ah, moi, je ferai jamais une relation autre qu'une relation polyamoureuse parce qu'il est hors de question que je sois la seule personne avec, à qui un mec se confie et que du coup, je suis obligé de servir de son soutien émotionnel. Je préfère en avoir plusieurs et ils se démerdent pour le soutien émotionnel. » Ils vont trouver d'autres gens s'ils veulent, mais je veux pas rester accroché à ce truc de couple à deux où du coup il va falloir que je fasse ce travail.
Oui, bah complètement. Et je voulais effectivement enchaîner là-dessus par la suite parce que c'est aussi mon expérience qui est, en fait, je peux dans différents couples, enfin dans différentes relations, expérimenter des façons d'être qui vont être différentes. Et dans certaines relations, j'ai pu être un peu moins sur le care, alors en l'exprimant, en disant où je me situais et comment j'allais pouvoir agir. Et d'autres où, enfin, j'ai d'autres relations où on m'a vraiment traitée comme une princesse. Et en fait, ça m'a permis d'expérimenter voilà différents types de liens et de pas rester enfermée dans une façon de relationner. Et il y a quelque chose que tu peux vivre du coup avec une nouvelle relation où tu te dis « Ah mais c'est bien en fait comme ça » et au final je me fais un peu avoir quand ça se passe comme ça dans cette autre relation et ça permet d'avoir des repères en fait sur comment ça se passe. Parce que si tu vis que dans une seule relation toute ta vie, éventuellement tu te rends pas compte.
Ouais, c'est là où la pluralité des liens en fait peut te permettre de t'ouvrir à d'autres modalités de fonctionnement et même à te mettre du coup dans des rôles diversifiés comme tu le disais.
Ouais.
En tout cas, du coup, moi, ça m'interpelle un petit peu sur si justement on constate ces asymétries de genre et qu'on veut chercher à lutter contre, dans ce cas-là, comment on fait pour résoudre justement ces problématiques? Est-ce que vous avez des pistes?
Numéro 1, en parler. Voilà, c'est tout. Juste déjà, peut-être constater ce qui se joue et essayer de gagner en lucidité par rapport à où on en est dans nos relations. C'est une première chose.
Oui, et en parler pour constater, dire, rien que déjà se poser la question, est-ce que tu penses que tu fais plus de tâches domestiques que moi? Est-ce que tu penses que les tâches que tu fais sont considérées comme étant plus féminines? Est-ce qu'elles sont plus valorisées, etc. Déjà, cette discussion, c'est probablement la base.
Est-ce que tu te rends compte que les vitres se nettoient? Et ça se fait pas tout seul. Utilisez le passif-agressif pour régler vos problèmes.
Je suis pas sûre. Ben, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est aussi, a priori, justement, tu le disais, Sacha, quand on est dans une relation, on a envie de prendre soin de l'autre d'une manière globale. Et du coup, ne serait-ce que prendre du recul là-dessus et se dire, est-ce que en fait, c'est ce qui se passe? Est-ce que on s'investit dans le lien? Est-ce que on ne se sacrifie pas aussi dans le lien? Parce que je pense que cette question-là, elle peut aussi permettre de souligner des problématiques. Et rien que par de la prise de recul, je pense qu'on peut déjà interroger certaines de ces inégalités, ouais.
Et je pense qu'il y a une lutte à faire contre le déni. C'est-à-dire que je pense que en tant que femme, parfois on ferme les yeux sur le fait qu'on se fait avoir, entre guillemets. Et ça aussi, donc il y a un moment où avec Adèle, on vivait ensemble. Et Adèle, quand toi, tu voyais que moi, j'en faisais beaucoup plus que les autres, parce qu'en l'occurrence, on vivait avec des mecs, tu intervenais et tu me disais « Non, mais ça, c'est trop », et t'étais capable d'aller voir les mecs pour leur en parler. Et au contraire, si c'était toi qui te faisais avoir, t'avais tendance à diminuer ce qui se jouait. Et de la même façon, moi, j'étais plus facilement à prendre ta défense parce que je le voyais sur toi. Mais en fait, moi, je me faisais avoir toute seule et je fais du déni sur le fait que non, mais ça va, en fait, ils sortent les poubelles ou je sais pas quoi. Et je pense que les meufs ont vraiment intérêt à faire attention à ça et à pas se répéter que non, mais en fait, mon mec, ça va parce qu'il fait ci ou il fait ça, quoi. Et à l'inverse, les mecs, il y a aussi un travail à faire sur c'est pas parce que vous faites des efforts que l'équilibre est rétabli. Et il y a vraiment, je pense qu'on a vraiment des travers qui sont très genrés aussi là-dessus, quoi.
Il y a un truc qu'on avait fait d'ailleurs à la coloc aussi à un moment donné, justement par rapport à la répartition des tâches ménagères, parce qu'en fait c'est très difficile de parler juste du vécu, parce qu'on a des vécus qui sont très individuels et qui en fait sont pas forcément compris ou entendables par les autres. Et du coup, rien que lister en fait les tâches qu'on a fait pour pouvoir avoir les exemples sous la main et pouvoir dire voilà, la répartition des tâches ménagères actuellement, elle est inégale et du coup comment on peut se répartir. En les ayant notés en amont, ça peut déjà être une base de discussion. Et dans les autres pistes que moi j'ai essayé de me dire que je testerai, j'ai pas encore fait, c'est me dire activement, par exemple, sur une journée, est-ce que Si je me considérais comme un garçon, ça changerait les choses dans la manière dont je conduirais mon lien avec mon partenaire ou ma partenaire. Et un aspect un petit peu de bah, qu'est-ce que je ferais différemment et se donner peut-être le droit d'échanger un peu les rôles ou d'échanger les tâches telles qu'ils sont réparties pour voir un petit peu bah, qu'est-ce que ça changerait dans le lien. Et ça peut presque être même un jeu pour se dire bah voilà, on essaye quelque chose de différent et bah un peu un vie ma vie.
C'est un peu intriguant ce que tu dis et en même temps il y a un truc qui me gêne un petit peu qui est le côté de qu'est-ce que ça ferait si j'étais un garçon, alors que là on parle d'une relation très individuelle et je pense qu'on arrive dans un point où ça serait peut-être plus simple dans ce stade-là juste de dire d'échanger les rôles de la dynamique du couple existant plutôt oui. De se dire juste qu'est-ce que ça fait si j'étais un garçon, qu'est-ce que ça fait si j'étais Antoine parce que mon compagnon s'appelle Antoine.
Oui.
Bah, il y aurait plein de tartres dans le truc de à faire bouillir de l'eau, la bouilloire. Mais ouais, je vois. Et il y a un truc dans le, enfin, on a parlé d'une femme qui se mettrait à faire du bricolage et qui galérerait un petit peu au début. Dans le même genre, il y a des mecs qui font le ménage, mais en fait, qui le font très mal. Et en fait, il y a un apprentissage à avoir par rapport à ça. Il y a plusieurs choses que je voudrais dire. C'est à la fois, bah, si c'est un truc nouveau, même si c'est un truc chiant à faire, bah appliquez-vous quand même, genre le faites pas à l'arrache. Et si vous êtes de l'autre côté et que vous voyez la personne faire nouvellement un truc et le faire mal, bah soyez patient ou patiente aussi, parce que la personne elle apprend et il y a vraiment un truc d'apprentissage à mettre en place éventuellement sur certaines tâches quoi.
Et je crois que ça peut être un acte délibéré, alors peut-être qu'il est plus ou moins conscient, mais de la part notamment des mecs, de mal faire les choses en se disant bah, « de toute façon, ça sera mal fait, donc du coup, on me demandera plus de le faire après ».
Yes, excellent, bravo.
Mais inversement, enfin toujours sur ce truc-là, il y a aussi l'idée que il faut pas forcément avoir honte de se dire bah, « en fait, explique-moi comment on passe... Bon, explique-moi comment on passe l'aspirateur. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont besoin de ça, mais même s'il y a ça, en fait, il faut passer au-delà de la honte et se dire, en fait, il n'y a pas forcément de honte à avoir. Si c'est juste, ça s'est jamais arrivé. C'est quand même pas normal, mais bon, de se dire, en fait, bon, bah, maintenant, ok, je me suis rendu compte de ça. Juste, explique-moi pendant 10 minutes comment se passe, comment fonctionne cet aspirateur. Éventuellement, même pendant les 20 minutes où je vais le passer, tu me surveilles et tu regardes s'il y a des trucs que je fais mal, tu vois. Et juste, donne-moi des cours, parce que ça sera effectivement moins efficace pour la personne qui est en train de donner le cours que de le faire soi-même, mais sur le long terme, ça sera bien, bien plus intéressant.
Sachant que, bon, là-dessus, il faut pas faire de raccourcis non plus, parce qu'il faut pas non plus tomber dans le on devient responsable d'éduquer nos partenaires, ce qui est aussi parfois problématique. Mais oui, je comprends ton idée, et effectivement, pour plein de petites tâches, en fait, il n'y a pas de solution... magique, il y a à nouveau des biais qui peuvent venir s'introduire et compliquer les choses, mais il y a quand même plein de pistes à explorer qui peuvent vous ressembler, je pense.
Et aussi, astuce, il y a Internet, effectivement, vous pouvez vous-même apprendre tout seul des astuces de ménage en tapant sur votre moteur de recherche préféré. Mais je dis ça parce qu'en vrai, on n'y pense pas forcément, et il y a des trucs qu'on apprend à faire, genre, moi j'ai appris à 30 ans, des trucs qu'il fallait faire pour entretenir sa machine à laver. Bon voilà, ça arrive à tout le monde.
Un dernier truc aussi que moi j'identifierais, c'est y compris dans les liens autour de vous, en fait, essayer de substituer peut-être une forme de jugement justement sur t'as vu, c'est le mec qui cuisine, c'est super, et l'exprimer oralement. Bah, en fait, ça renforce parfois justement les biais liés au genre, et parfois substituer une forme de curiosité à un jugement, ça me paraîtrait opportun. Mais enfin voilà.
Comme je disais tout à l'heure, je disais ah moi j'ai des couples d'amis, c'est que la meuf qui cuisine et tout. Mais en vrai effectivement, je sais pas ce qui se joue exactement dans le détail dans leur relation, et ça peut être intéressant de aller voir par exemple mon pote et dire j'ai l'impression que c'est plutôt ta copine qui cuisine. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué ? Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu ou... mm-hmm. Et puis avoir des discussions plutôt que d'accoler des jugements hâtifs.
Donc, on a vu que les constructions de genre nous influencent encore. Malgré les évolutions, année après année, on est encore dans une société qui prescrit des rôles différents aux hommes et aux femmes. L'éducation y est pour beaucoup, et ces rôles avec notre manière d'être en lien. Ça serait pas forcément un problème qu'il y ait des asymétries, mais ça l'est parce que ces asymétries sont encore trop souvent source d'inégalités et d'injustices. Et du coup, on est parfois empêché d'être, y compris dans notre sphère privée et dans nos relations. Ce n'est pas inéluctable, on a une fois de plus envie de vous inviter à en prendre conscience, à en parler avec vos aimés, à discuter émotions et répartition des tâches. Et surtout, à vous donner le droit de vous éloigner des constructions genrées. Sacha et Alexia, un mot de la fin ?
Moi, je vais reprendre ce que tu dis dans la conclusion, c'est effectivement, la première chose, c'est d'en parler. Posez-vous des questions, parlez-en avec les personnes avec qui vous êtes en relation et parlez-en avec les gens autour de vous de comment sont genrées les tâches et comment vous faites en sorte de lutter contre ça.
Moi, je voudrais dire que il y aura forcément des asymétries dans une relation, puisque dans une relation à deux, c'est deux individus qui sont différents, mais qu'il est important de rester vigilant à ce que ces asymétries, elles ne sont pas dues au monde externe et aux oppressions qu'il existe déjà dans le monde externe, et de voir en quoi ça impacte cette relation à deux. On ne peut pas y faire abstraction, on est obligé de les prendre en compte et d'en discuter.
Ouais, ce que dit Sacha, ça me donne envie d'insister. Il y a une différence entre égalité et équité. Et pour moi, justement, le but dans vos relations, c'est de chercher à être équitable et d'arriver à un équilibre et de pas reproduire des asymétries injustes.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast en est à ses débuts et on est avide de vos retours. N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur contact@atesamours.fr et on se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez trouver le transcript et les sources de cet épisode sur notre site atesamours.fr. À bientôt pour le prochain épisode.